Bonjour, les échos du Grand Saint-Barthélemy reprend en 2025 avec sa première émission en direct du comité Maïga, diffusée le jeudi, comme vous le savez, un jeudi par mois sur Radio Galère 88.4 ainsi qu'en App+. Notre fenêtre ouverte sur le monde reste accessible via www.radiogalère.org et vous pouvez également nous suivre en podcast et pour nous contacter le 07 49 53 87 44. À l'animation, Issa. Bonjour.
Bonjour, Issa. Bonjour.
Et moi, Jean-Marc, sans oublier notre fidèle ami Sidi Diallo, toujours la technique de Radio Galère, qui nous accompagne depuis quelques années. Maintenant, Sidi, n'est-ce pas? Ça fait quelques années. Nous espérons retrouver notre passage de mémoire, Karima Berrich, qui nous a beaucoup manqué. Nous avons souvent pensé à elle et à son courage. Nous lui dédions ce morceau de Grand Corps Malade, nos absents, en guise de message de soutien, ainsi qu'à nos amis et camarades qui nous ont quittés tout récemment. Merci Sidi pour nos absents de Grand Corps Malade sur 88.4.
Vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. À plusieurs on est plus fort mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant. Je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux. Mais chaque année, nos absents sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles. Mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastelles. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié. Chaque heure passée est une pommade. Il en faudra des milliers. Les morts, les disparus, je n'en parle pas beaucoup. Alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous. Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous, qui fait qu'on court après la vie, sachant que la mort est à nos trousses. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, qu'inspirent des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie.
Et oui, les échos du Grand Saint-Barthélemy sur 88.4 et en date plus. L'année 2024, je vous rappelle, fut placée sous le signe de l'engagement. Quant à 2025, elle sera celle de la recherche d'une égalité entre les humains et entre les peuples. Pour cela, nous parlerons davantage d'équité, qui représente le premier palier vers cet idéal d'égalité. Cette réflexion prend d'autant plus de sens dans un contexte mondial où un mot désormais uni pour ma part, à mes yeux, résonne encore, c'est celui de submersion. Avec nos invités, je vous propose de vous présenter, ce sont nos amis du groupe de veille. Alors nous démarrons comme d'habitude par les dames, bien sûr. Alors Anne-Marie, bonjour, très contente de te recevoir, de recevoir les autres amis qui sont présents avec nous.
Oui, et je suis ravie aujourd'hui de faire partie de ceux qui représentent le groupe des événements qui marquent le groupe de veille. Et de nos batailles. nos combats avec tous les collègues qui sont ici. Voilà.
Nous poursuivons. Oui, Myriam, bonjour.
Bonjour, c'est Amel.
Oui, Amel, pardon. Effectivement. Oui. Oui, il y aurait un problème peut-être technique. Non. Allons-y. Oui, tu peux reprendre, Amel.
Il est vert, c'est bon.
Oui, il est vert, c'est bon. Allez. Oui.
Oui. Et ça fait des années que je suis avec le groupe de veille. On essaye d'améliorer le quartier un petit peu. Et là, ça, depuis quelque temps, j'ai créé l'association des habitants du Mail depuis quelque temps. Et voilà, pour créer des trucs et, au Mail, parce qu'il y a trop de trucs qui manquent au Mail.
Eh bien, nous en parlerons. Bienvenue, Amel. Merci. Donc, pour parler demain, effectivement, avec toute la problématique en lien avec cette copropriété. Oui. Alors, nous allons poursuivre avec Fadila, maintenant, qui a l'habitude de venir nous voir et de pouvoir s'exprimer sur les zones de galère d'un cas des échos. Bonjour.
Bonjour.
Fadila.
Fadila, on se connaît. Je suis déjà venue à plusieurs reprises, membre du groupe de veille depuis sa création. Et voilà.
Et il me semble que tu fais partie d'une association,
oui,
aussi.
Oui, l'association Arc-en-Ciel.
Qui, pour rappeler, qui mène différentes actions. Et à un moment donné, c'est des maraudes.
Des actions en lien avec la parentalité. On crée du lien entre l'école et les habitants. On fait des maraudes depuis 10 ans maintenant, tous les lundis. On essaye un peu de faire des choses culturelles en direction des familles. Voilà, plein de petites choses, en fait.
Merci.
Merci.
Nous allons poursuivre avec une personne que nous connaissons bien, qui a presque l'habitude d'intervenir, parce que nous avons déjà fait des émissions, y compris avec un ami, Dick de Corot, n'est-ce pas? Bonjour Jean-Michel.
Bonjour, alors s'il faut un homme, je serai celui-là.
merci pour nous.
Mais du groupe de veille.
Ouais, du groupe. Oui.
Non, j'habite le quartier depuis une quarantaine d'années. Et la naissance du groupe de veille a coïncidé avec ma retraite professionnelle, donc en 2016. Et c'est juste à ce moment-là que je me suis un peu engagé dans le quartier. Parce qu'auparavant, à cause de mon travail, je n'avais pas la possibilité de m'engager. Voilà, je partais souvent pour la semaine au travail. Voilà.
Merci. Nous devons souligner que nos amis présents sont tous bénévoles, parce que c'est extrêmement important de pouvoir le souligner, et que nos amis consacrent beaucoup de temps à tenter d'améliorer le quotidien des habitants du territoire, notamment parce que vous allez en parler, mais plus sur le territoire de la Busserine, n'est-ce pas? Alors, justement, lorsque l'on parle du groupe de veille, c'est en lien avec un territoire. Et quel est ce territoire et recoupe quelle cité, quel quartier?
Alors, le groupe de veille s'est constitué déjà en 2016. Ça veut dire que, comme disait la préfète à l'égalité des chances, on avait de la constance, parce que on existe depuis ça. Et on disait tout à l'heure, on règle pas tout, mais ça nous permet d'avoir un lieu collectif de rencontre aussi. Et il a été créé de façon à faciliter aussi, dès lors qu'il y a un problème sur le quartier, le regroupement et la rencontre entre tous les acteurs du territoire, acteurs associatifs et habitants, sans forcément que ces habitants fassent partie des associations. Et l'idée, c'est de réfléchir ensemble quand il y a un problème sur comment ce problème se pose, comment ça s'illustre, et puis de voir après comment on peut réagir tous ensemble, et soit directement nous-mêmes par nos propres moyens, soit en interpellant les institutions qui ont compétence sur un certain nombre de questions. La régularité du groupe de veille, elle est beaucoup ponctuée par justement les problèmes, les événements, mais aussi les venues, comme c'est le cas aujourd'hui avec la venue de la ministre de la ville qui vient sur notre territoire. Et c'est la deuxième venue, et c'est quand on dit que des fois le groupe de veille devient une instance légitime, c'est qu'elle est reconnue dans sa capacité à organiser cette rencontre, c'est-à-dire qu'on a réuni tous les acteurs du territoire, et à avoir un dialogue direct, démocratique, avec une représentante de l'État sur les problèmes qui traversent le quartier. Voilà. Une des questions qui se pose à nous, mais ça sera peut-être dans un deuxième temps, c'est que on se dit peut-être que on s'est dit à certains d'entre nous qu'on devenait peut-être trop légitime, c'est-à-dire que il faut qu'on garde notre capacité de combat et de dire haut et fort ce qu'on pense, de pas se faire museler sous prétexte qu'on est reçu, entendu et tout ça. Dire que le groupe de veille est un collectif, c'est pas une association, et que le groupe de veille ne demande pas de subvention, bien entendu, puisque on veut garder notre parole libre et pas surtout agir à la place d'associations qu'il y a sur le territoire.
Ce n'est pas pour rien que l'intitulé, c'est le groupe de veille au grain sur le territoire de Grand Saint-Barthélemy. Alors, le territoire recoupe quoi?
Oui, quand on parle de territoire, donc c'est le Grand Saint-Barthélemy, c'est donc ça va de la Busserine, le Mail, Picon, Saint-Barthélemy, les Flamands, la Benosse. Voilà, c'est ça à peu près la délimitation du grand territoire.
Est-ce que vous voulez compléter sur les propos tenus par Anne-Marie sur l'existence et quels sont les problèmes au démarrage que vous avez pu rencontrer, auxquels vous vous êtes confrontés, et qu'il y a une avancée aussi? C'était quel problème, cette mobilisation? Comment cela s'est-il passé, Melcréé?
La création du groupe de veille, elle est à l'initiative de l'association Arc-en-Ciel, suite à un incident qu'il y a eu sur l'école élémentaire. Et on s'est rendu compte que c'était un besoin criant, en fait, cette réunion d'associatifs et d'habitants. Et on a poursuivi. Après, il y a eu la fusillade. Après, on est arrivé sur notre grosse bataille qui est la crèche de l'œuf. Et voilà, on a aujourd'hui une légitimité, un poids qui nous permet quand même d'avoir un peu ce rôle-là vis-à-vis des autorités, des institutions. Et on travaille encore sur ça.
Mais cela n'a pas été simple pour arriver. Quel a été ce processus qui a fait qu'actuellement il y a une forme de légitimité, de reconnaissance, pourrions-nous dire, de la part des institutions? Et quelles sont les institutions aussi qui vous reconnaissent en tant que telles?
Le militantisme, c'est la base de notre... c'est des combats, c'est des blocus, c'est des prises de parole aux médias, et qui ont fait que, je pense.
On a... Padella parle de l'histoire de la crèche de l'œuf, c'est assez emblématique, c'est-à-dire que on s'est autorisé et on s'est donné pour but de lutter pour le maintien de la crèche, sa réouverture, et du coup on a fait des conférences de presse, on a interpellé toutes les institutions, on a fait des lettres ouvertes, on a fait une pétition, et on s'est retrouvé à certains moments avec certains élus qui nous disaient: oui, mais en fait on vous soutient, pourquoi vous dites ça? Et comme si le fait de lutter faisait qu'après il fallait passer la pommade à certains, etc. Alors il est vrai que parmi les premiers à soutenir au niveau institutionnel, c'est l'État. C'est-à-dire que, si on se rappelle la fusillade en 2018, elle est suivie très vite par la venue du ministre à l'époque de l'Intérieur sur le quartier, qui entend dire que la crèche ferme suite à la fusillade, et en fait qui annonce la crèche de l'œuf ne fermera pas devant les médias, la France entière, alors que les gens ne savaient pas ce que c'était la crèche de l'œuf, mais peu importe. Et derrière, les services de la préfecture et en particulier les PDEC ont pris fait et cause pour le maintien de la crèche à travers tous les aspects, c'est-à-dire la sécurisation, le fait de travailler à la mise autour de la table de toutes les instances avec le groupe de veille qui était concerné par le maintien de la crèche, parlant en particulier du département et de la PMI qui n'étaient pas du tout favorables au maintien, pour des soi-disant problèmes de sécurité, mais dont on a su très vite que c'était une négociation entre l'association gestionnaire de l'époque et la PMI de rouvrir la crèche dans un autre lieu qui leur convenait mieux, avec un double de lit, avec des travaux prévus, etc., notamment à Corot. Donc nous, on a dit, on continue à se battre là-dessus et on garde cette constance. Donc on a été un peu le gratteur depuis 7 ans maintenant. C'est-à-dire chaque fois qu'on s'endort un peu sur ce dossier, on le ressort. On le ressort, on communique, on interpelle les institutions, en particulier la PEDEC en disant voilà, là il faudrait réunir tout le monde, ou il faudrait interpeller, ou il faudrait faire une visite des locaux, il faudrait que le chantier avance, etc. Et ça, on a eu cette capacité, je dirais, exemplaire de le travailler et harceler au quotidien les institutions. Et là, se re-questionne ce que tu as dit au début, quand tu as dit les gens se disent qu'est-ce que c'est qui avance. Peut-être qu'un des déficits qu'on a le plus, c'est de ne pas assez communiquer aux habitants. C'est-à-dire qu'aux institutions, oui, ils savent où ils en sont. Mm-hmm. Il y en a qui ont envie de tenir compte du groupe de veille, d'autres non, hein, il faut être honnête. Mm-hmm. Certains aimeraient bien qu'on n'existe pas, mais ils ne peuvent pas faire sans nous. Mais par contre, au niveau des habitants, il faut communiquer, parce qu'on rencontre plein de fois des gens qui nous disent « Ah, mais je croyais que c'était fermé la crèche, ça y est, c'était fini. » Enfin, on parle de cet aspect-là, mais il faut développer ce côté-là de communication.
Oui, Michel, voulais-tu compléter ?
Oui, je crois aussi que les pouvoirs publics et les élus ont fini par comprendre que quand même, les meilleurs connaisseurs du territoire, ce sont leurs habitants. Et ça, c'est important. Et je crois qu'on est devenu pour eux des
interlocuteurs,
presque des partenaires, ouais. Ça, et ça, je crois, c'est, et puis je crois qu'ils ont été assez impressionnés aussi par notre capacité et de réactivité, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on laisse rien passer, quoi. On laisse rien passer, et ils se disent bon, il vaut mieux travailler avec des gens comme ça
Oui, disons que avoir une crèche, c'est absolument indispensable, parce que pour l'histoire de la crèche, vous vous rappelez, c'était d'avoir la maison de quartier, hein, à l'époque qui existait, puis après elle a été délocalisée juste un peu à côté, à proximité, puis après effectivement, nous, ce qui nous arrive, c'est que nous, comme nous portons même égard, nous avons certains habitants qui appellent, qui croient que nous sommes une crèche, que nous pouvons accueillir des enfants. Donc ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a un manque criant. C'est en lien avec différentes problématiques pour des mères de famille qui veulent soit déjà être dans une démarche d'insertion, de travail, de stage et autres, le fait qu'il ne puisse pas y avoir de lieu, c'est un lieu qui est indispensable à mon sens aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que cela suscite des réactions ou pas. Mais néanmoins, je pense qu'effectivement, que c'est un exemple sur le quartier de lutte que vous menez et qu'il y a une absence de communication. Et l'objectif de cette émission, c'est de pouvoir permettre aux habitants et aux Marseillais et Marseillaises, aux auditeurs de Radio Galère, de pouvoir savoir que le groupe de veille existe, mais aussi qu'il y a des avancées et que s'il n'y a pas de mobilisation des habitants, il n'y a rien qui peut se faire pour arriver à atteindre certains résultats. Donc les résultats sont peut-être longs à arriver, mais il faut laisser le temps au temps. Je sais pas si, bon, je vous laisserai réagir si vous le souhaitez.
Il y a aussi le gros travail qu'a fait le groupe de veille sur la plaine des loisirs, hein, à ne pas oublier, parce que c'était aussi des années et des années d'ateliers, de concertations. Et il faut clairement dire que le groupe de veille est devenu l'interlocuteur principal de toutes les personnes qui s'occupaient de ça, architectes, villes, de tous les aspects du parc de la plaine des loisirs. On les a tous vus à travers des ateliers, des rencontres, des échanges. Et quand il y avait des problèmes, par exemple, sur les travaux ou des problèmes de... Est-ce que ça, finalement, on ne peut pas le déplacer là ? C'était toujours le groupe de veille qui était contacté, qui était consulté. On faisait en sorte de créer des petits groupes de travail avec des habitants, toujours, pour que tout le monde se sente impliqué et pour que ça soit constructif et à l'écoute de ce dont on a besoin. On a un très beau parc aujourd'hui et c'est pour moi aussi une des réussites du groupe de veille. Et ça permet aussi de montrer que même si financièrement on n'a rien apporté, il y a des choses comme ça qui ne s'achètent pas et que le groupe de veille apporte la connaissance, comme disait Jean-Michel, la connaissance du territoire et des besoins. Ces choses-là, je pense que le politique et les financeurs savent très bien le poids et la valeur que ça a, et c'est ce qui fait un peu notre force. Et effectivement, on est constant, hein, on est là depuis de nombreuses années. Maintenant, on est repéré et repérable, c'est ce qui fait qu'on peut mener ce combat-là sur la crèche, ce qu'on a fait pour la plaine des loisirs et ce qu'on est en train de faire pour le mail, par exemple, avec Amel. Pour le MAI, par exemple, on arrive à avoir des réunions avec les institutions, avec les financeurs, à amener des questionnements et des sujets sur la table. Les habitants, quand ils n'arrivent pas à être entendus, on essaye un petit peu d'apporter quelque chose. Et voilà, c'est une des forces du groupe de veille. Après, on n'a pas la solution à tout. Le problème du mail, on est encore en plein dedans. C'est loin d'être terminé, hein. Mais on est, voilà, on arrive à amener des gens importants et des gens qui mettent beaucoup d'argent à les faire venir et à les faire discuter avec les propriétaires, les locataires. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Amel, si tu veux dire un mot sur ça.
Oui, je pense que nous allons faire peut-être... Oui, tu voulais intervenir en ce sens.
Et puis, je crois que c'est important qu'on soit un collectif. Un collectif, ça agrège beaucoup de gens, des associations, c'est rassembleur. On est un collectif, c'est un peu un porte-parole d'une population. Et quand on est porte-parole, on est reconnu. Et je crois que c'est important qu'on soit resté un collectif.
Alors, pause musicale, puis après nous passerons la parole à Amel pour aborder un peu la problématique du maï qui sont fort nombreuses. Il n'y en a pas qu'une, n'est-ce pas? Merci, c'est dit. Alors, Sosomanes.
C'est qui?
N'attends pas que tu sois un homme bien. Sois un homme bien et attends la mort. J'ai gaspillé le temps au creux de ses mains. Mais avec le destin, personne joue la montre. J'ai vu des seringues dans le bac à sable, là où s'amusent tous les enfants. Le toxico, je l'ai pris à coups de serin. Puis j'ai compris que c'était à cause de moi. Oui, à cause de moi, parce que je vends la mort. Le matin, le soir, à des heures différentes. Aucun scrupule dans mes méfaits. J'en ai rien à foutre tant que le bif y rentre. Le jobber fume un tarte patate. Le civil nous insulte de macaque. Ça passe du QHS au HSE. Je dépliche ce qu'échoue sur l'asphalte. Premier album, c'est rescapé. Je pose mes coronets sur la table. Quand je rapote tu sens la vérité et l'authenticité de mes fables. Je vais pas pleurer sur notre précarité, mais montrer au monde qu'on est capable. Décider, inciter l'unité, comme mes trois grands frères du intouchable. Je reviens vous braquer, allez haut les mains. Je suis comme un croc sur la canne bière. Je vais rapper la rue et tous ses problèmes. De la bonne mère à la tour Eiffel. Des labos de la jungle amazonienne. Au pied insalubre de nos HLM. Y'a des traces de pur sur les billets crème.
Et dans la puce, des crises pour le week-end.
C'est sur Hassanet, je suis endetté. J'ai dit les volets, j'étais rapta. Avec Chétan, on a trinqué. Maintenant, je décuve mon vécu et pleure quand ça va pas. J'ai trop vu de larmes le soir à l'hôpital. Trop vu de blagues sur les pierres tombales. Cette année, le vent va tourner pour mes frères. C'est pour ça que cet album s'appelle Mistral.
Et je fais le tour, je repense à tout ce parti là-haut. Je vous le dis bientôt, c'est moi qui fais la météo. Fuck les rivaux. Tu me penses rigole, mais crois-moi, je suis tellement triste. La vie d'artiste, je veux pas du succès. Si c'est pour finir comme toi, égoïste.
Comme toi, égoïste. Comme toi, égoïste.
Toujours à l'écoute des échos du Grand Saint-Barthélemy. Nous allons aborder la problématique du mail, les problématiques, parce qu'elles sont fort nombreuses, n'est-ce pas, Amel, Anne-Marie, Fadela et Michel, dans la mesure où c'était une copropriété qui, à l'époque, bon, puisque nous étions sur le quartier à l'époque, et c'était toutes les nouvelles familles, parce que c'était une copropriété déjà qui était habitée par des familles, des copropriétaires de souche européenne, pourrions-nous dire, et qui avaient la même mise sur le quartier et la maison du quartier, n'est-ce pas? Voilà, alors depuis, les temps ont bien changé. Alors, qu'en est-il aujourd'hui et dans quelle mesure cela impacte la vie au quotidien des copropriétaires ou des locataires actuels du mail?
Franchement, il s'est carrément dégradé, le mail. Il n'y a rien, ça fait 40 ans que j'habite là-bas. Et de là, j'ai vu le mail qui est en train de descendre de plus en plus. Là, c'est le pire qu'on ait. Les propriétaires, ils ont tous abandonné. La moitié qu'ils étaient intelligents, ils ont vendu, sont partis. Au début, quand ils ont vu que le quartier il a commencé. Et depuis, ça s'est dégradé. Là, les charges, ils ont augmenté les charges. Les gens, ils n'arrivent plus. Même les anciens qui habitent, parce qu'ils sont à la retraite, avec leur retraite, ils n'arrivent pas à payer les charges. Et le syndic qui prend tout dans sa poche, ils partent. Tous les 5 minutes, on en a un qui vient de nulle part, on ne le connaît pas. Et ça continue jusqu'à maintenant. Maintenant, on a le réseau qui s'est installé au bâtiment 1 et B. Les habitants, le squat, les marchands de sommeil, on a tout dans le quartier. Et on se sent, c'est pas qu'on se sent, on est abandonné. On est abandonné. Pour le moment, moi, personnellement, depuis quelques années, je suis avec le groupe de veille. J'essaye de parler. J'ai 2 personnes au groupe de veille, plus Anne-Marie et Fabienne Binet. C'est 2 personnes que je fais plus confiance. Il n'y a qu'avec eux que je peux parler, je discuter. Et petit à petit, là, heureusement pour nous, on a essayé de travailler avec les habitants. On a pu avoir les habitants qui viennent, qui font les réunions. Avec M. Carrier aussi, qui était là, franchement, on le remercie. Grâce à lui, on a pu réparer les ascenseurs. Parce que le A et le B, ils étaient sans ascenseur depuis 5 ans. Et heureusement, il était là. Il était resté derrière nous jusqu'à ce qu'il les répare. Et là, en ce moment, on a les ascenseurs aussi. Toujours les ascenseurs qui tombent en panne. Toujours le syndic qui ne fait pas son travail. Il y a les encombrants. De toute façon, nous, on habite là-bas, on en a marre. On n'arrive plus.
Oui, mais c'est un syndic ou un administrateur qui a été aussi judiciaire, qui est là pour pouvoir faire des sous et pour pouvoir repartir sans avoir rien réglé.
Non, non, c'est le syndic.
Et c'est lequel?
Il y avait le syndic, on avait COGEFIM.
Oui.
Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec Foncia, ni conseil d'administration, ni rien du conseil syndical, et rien du tout. Au début, soi-disant, ils ont fusionné. On s'est retrouvé avec le papier de charge, c'était marqué Foncia. Ils sont venus, quand ils sont rentrés, ils n'ont rien fait. Et du jour au lendemain aussi, on s'est retrouvé avec administrateur judiciaire.
Voilà. Donc, effectivement, c'est beaucoup... Oui, tu voudrais intervenir.
Alors, tout ce que dit Amel, c'est la réalité, c'est épouvantable. Mais il faut savoir aussi donc, que depuis 2 ans, il y a un plan de sauvegarde qui est en phase d'élaboration. Et la convention, je pense, va être signée cette année, dans quelques mois. Et ce plan de sauvegarde, il a. Tu as parlé de M. Carrier. En fait, le plan de sauvegarde.
Quel est le statut présenté ce monsieur? Alors, autant savoir un peu de qui il s'agit.
Alors, M. Carrier, c'était le préfet à l'égalité des chances en 2022. En 2022, et c'est du temps de
plusieurs à Marseille. Hein,
il y a Rosier, il y a son mandat, que cette problématique a été vraiment prise au sérieux.
Outre la personnalité de M. Carrier, c'est important de le dire, parce qu'encore une fois, c'est la place des habitants. Si la problématique du mail est remontée, y compris en préfecture, c'est qu'il y a eu une manifestation des habitants du mail. Il y a presque 3 ans maintenant, de l'association AAMA, qui a réuni des habitants et qui a fait fortement parler d'elle parce qu'il était avec des photos, des immeubles, des cages d'escalier, des apparts, etc. Et fait que les médias se sont emparés de cette question.
Oui.
Et du coup, derrière, la ville et la préfecture ont réuni ce collectif d'habitants, enfin, cette association d'habitants et le groupe de veille pour travailler sur les solutions plus durables. Voilà.
Alors au Mail, il y a à peu près 400 logements sur les 6 bâtiments A, B, C, D, E, F. 2 bâtiments A et B de 15 étages qui sont très dégradés, dont un est gangréné par le réseau.
Et les squats,
il faut savoir que le bâtiment A, la moitié des appartements sont squattés.
Squattés, mais il y a aussi des marchands de sommeil.
Oui, c'est ça.
Qu'ils ont découvert parce qu'il y a eu une descente. Qui sont venus avec l'administratrice et la ville et la préfecture, ils sont venus. Et c'est là qu'ils ont constaté qu'il y avait trop de squats. Et de là, on attend leur...
Ce plan de sauvegarde, il va courir sur plusieurs années. Mais il a déjà commencé parce qu'il y a des travaux d'urgence à faire. Donc ils ont quand même mis déjà pas mal d'argent. Ils ont mis 1 million d'euros par exemple sur les deux ascenseurs, le A et le B, qui a été refait complètement à neuf. Là il va y avoir le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui va être refait, donc ça va être encore une somme d'argent très importante. Tout ça, il n'y aura aucun reste à charge pour les propriétaires.
Non, c'est surtout le plan de sauvegarde parce que dès le départ,
c'est l'État qui prend en charge.
Comme ils ont vu que c'est une urgence, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas le chauffage, tout ça, ils ont dépanné pour cet hiver, mais après l'hiver, ils vont commencer à faire les gros travaux sur la chaudière.
Mmh. Mais certains copropriétaires qui sont là depuis des années, qui ne peuvent plus revendre parce qu'ils se retrouvent dans un cercle vicieux. Et c'est dans le sens où ils ont acheté le logement à un prix certain, aujourd'hui, ils ne peuvent plus revendre. Ils se retrouvent dans des situations qui sont extrêmes et extrêmement compliquées pour pouvoir partir. Vous devez en rencontrer. Certains doivent exprimer aussi leur douleur, leur souffrance et de dire, je n'aurais jamais dû acheter dans les quartiers et dans une telle copropriété aujourd'hui. Est-ce qu'ils veulent se plaindre? Est-ce qu'ils viennent vous rencontrer pour discuter de ce mal-être profond qu'ils éprouvent?
Il y a eu le groupe de veille avait demandé une réunion institutionnelle avec les habitants du Mail. Donc la première réunion ayant eu lieu il y a 2 mois à peu près, en présence donc de Madame Epaillard, la PEDEC, avec la préfecture de police et la présence de la ville et de la métropole. Donc à cette réunion, il y avait peu de propriétaires, mais des propriétaires étaient présents. Alors qu'un des problèmes, tu me reprends Amel si je me trompe, mais qui est dit par le syndic et par la syndic judiciaire, c'est que les propriétaires viennent jamais quand on les convoque. On ne sait pas où ils sont, on les convoque, ils viennent pas, etc. Donc là, il y avait des propriétaires qui ont exprimé énormément leur avec émotion la situation qu'ils vivent au Mail. Une autre réunion a eu lieu il y a plus d'une semaine. Il y avait encore plus de propriétaires. Il y avait quand même, moi je dirais, ils étaient presque une cinquantaine, je ne sais pas si je me trompe. Mais ce qu'il y avait de surprenant, c'est pas surprenant, on le sait, mais c'est quand même, c'est qu'on se trouve avec des propriétaires pauvres. Tu vois, on n'est pas avec des gens qui ont du pognon, qui viennent là revendiquer le maintien de leur patrimoine. D'ailleurs, ils le disent, hein. Ils disent, on est pauvres, on n'a que ça, et aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'il faut qu'on fasse, etc. Ce que rappelle sans arrêt la préfecture, c'est qu'on est soumis à une situation où tu as le respect du droit en France, issu de la révolution de 1789, c'est-à-dire le respect de la propriété privée, qui vient se confronter au respect des gens qui vivent dans ces logements. Même si on enlève la question des marchands de sommeil, des squats liés au trafic, etc., le problème il reste entier. Et qui prend les décisions? Parce que du coup, le plan de sauvegarde met de l'argent. C'est l'État en grosse partie, et pas que, je crois, hein, la métropole et la ville.
Il y a
l'ANA
aussi.
Oui, l'ANA qui représentait l'État, qui en fait vont mettre de l'argent. Mais du coup, les propriétaires se trouvent dans une situation, je crois qu'une fois on avait abordé ça, on s'était dit, mais les propriétaires, ils ont intérêt... On parle peut-être pas très bien de ça, mais à laisser traîner, puisqu'à la limite, ils savent que leur appartement va être rénové ou le bâtiment va être rénové à leur profit, sans que eux versent un centime, parce que ça dure depuis un moment. Voilà.
Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est le plan de sauvegarde, il est fait pour ça, pour réparer leur maison. pour payer leurs dettes qui restent. Et on a beau leur expliquer, j'ai essayé avec le groupe de veille de parler avec Fabienne pour qu'elle fasse une intervention par rapport à la gestionnaire qu'on a maintenant. Et depuis que la préfecture s'est mêlée, elle venait aux réunions et elle essaye d'expliquer aussi aux gens. Les propriétaires, même les propriétaires, ils croient que, parce que de payer, ils étaient à 100, même pas 100 euros par mois. Maintenant, ils payent 200, 300 euros par mois de charges. Il y a pas l'ascenseur. Déjà, le bâtiment où j'habitais, 2 mois et demi, on n'avait pas d'ascenseur. La saleté qu'il y a, les encombrants, il n'y a rien qui marche au mail. C'est pour ça que les gens ne comprenaient pas pourquoi ils payent autant. Avant, on payait moins et on avait tout. Mais maintenant, ils payent autant. Elle se dégrade de plus en plus. Ce qu'on n'a pas compris, c'est après l'administratrice qu'elle nous a expliqué, on a eu des dettes que Foncia et Cogefim ne payaient pas. Ils ont laissé, et là, elle a découvert les dettes qu'on a au MAI.
On a constaté quand même il y a une dette de 2 ou 3 millions d'euros, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, 3 millions d'euros, ouais. En fait, c'est la même problématique un peu partout dans les copropriétés. Ouais, il y a le même problème au Roger, à la Morlette, ou au Marronnier, les Églantines aussi, qui étaient l'équivalent du Mail, donc où c'est ces mêmes problématiques. Moi, des fois, je jette des coups d'œil comme ça, juste pour voir, par curiosité, sur le Bon Coin, il y a des propriétaires qui vendent leurs appartements à 5 000 euros. J'ai vu des appartements au Mail à 5 000 euros, à 10 000 euros.
Ils étaient vendus, il y a des personnes qui ont acheté.
Ils ont baissé les bras. Non, mais jusqu'à maintenant, si on regarde sur le Bon Coin, il y a des appartements qui se vendent des 5 000, 10 000, 15 000 euros. J'ai vu des lots d'appartements au Mail, 50 000 euros, 4 appartements à vendre. Donc, c'est incroyable, quoi. C'est triste. Il y a des gens qui ont galéré toute leur vie pour pouvoir s'offrir ce bien, et aujourd'hui ils sont bradés là où le coût de la vie a augmenté, eh ben ces appartements sont bradés. Donc c'est
ce qui est triste, c'est que il y a un sentiment d'abandon très fort, et on peut dire aussi que il y a au Mail il y a une zone de non-droit où on ne peut pas. À part les habitants, on peut pas y aller, quoi, hein, parce qu'on se fait repérer par le réseau. Et je pense que le groupe de veille, il sert aussi à ça, à mettre en lien les gens à mettre les gens en réseau, quoi. Hein, c'est aussi un lieu où bon, on est solidaire, chacun les uns des autres, et voilà, on s'aide.
On essaye de donner plus de poids à la parole des propriétaires, en fait, parce qu'un propriétaire tout seul, il n'a pas le même poids que 20 propriétaires réunis avec le groupe de veille, comme là, par exemple, sur la dernière réunion qu'on a fait, quand la PEDEC nous a... C'était la deuxième réunion, mais c'est la dernière là, quand on fait venir la PEDEC...
Le sigle, parce que les personnes n'arrivent pas,
c'est la préfète à l'égalité des chances, qui vient grâce au groupe de veille, et qu'on arrive à faire venir autant de propriétaires, c'est une très 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 bonne chose pour eux, pour faire entendre leur voix, et on a entendu leur mal-être par rapport aux ascenseurs, par rapport aux augmentations de charges, par rapport aux problèmes de communication avec le syndic judiciaire, l'administratrice judiciaire. Donc tout ça, c'est des choses qui, quand on est ensemble, ça a du poids, mais une personne qui va s'exprimer seule, ça va rien peser. C'est ce qu'on essaye, nous, d'apporter en tant que groupe de veille. Mais encore une fois, hein, sur le Mail, c'est très compliqué, parce qu'il y a les marchands de sommeil, hein, dont on parle peu, parce qu'ils sont pas là, en fait. C'est compliqué de parler des absents, mais il y en a beaucoup qui profitent de la situation du Mail pour louer une pièce à 200, 300 euros pour un appartement qui a 4 pièces. Il y a 4 familles, ils sont 20 dedans.
Oui.
Et la précarité, voilà, c'est là que tout se dégrade.
Oui. Et est-ce qu'il y a un recours possible contre les syndics, les anciens syndics, bon, que ce soit Cogefim, Fouque et le Foncia, parce qu'ils se sont... Bon, voilà, parce que la question, parce que normalement, est-ce que ce n'est pas le rôle et le travail que doit faire l'administrateur judiciaire qui a été mis en place, une fois qu'il a fait, un décompte, établi un décompte, qu'il puisse intenter un recours contre ses syndics pour essayer d'obtenir une forme de réparation quelque part, ne serait-ce que symboliquement, quoi. Au-delà du symbolique, pour ma part, ça devrait être.
Pour le moment, non, parce qu'elle n'a pas tous les documents nécessaires. Au début, elle ne voulait pas parler avec nous. De temps en temps, elle appelle pour avoir un renseignement. Depuis, moi, comme je suis en contact avec Fabienne et elle est en contact avec elle, moi, personnellement, je n'aime pas parler avec elle parce que quand on l'appelle, elle ne répond pas. Ni par téléphone, message, mail, rien du tout, elle ne répond pas. Je passe par Fabienne, elle l'appelle. Et on est resté derrière elle pour qu'elle fait des réunions et avoir les personnes en face pour parler, pour leur expliquer. Parce que moi, ils m'attrapent dans le quartier, comme quoi ils croyaient que j'étais déjà le syndic, que je travaille avec le syndic. J'ai beau leur dire que je ne suis pas syndic, mais ils me disent « si, si, vous travaillez » parce qu'ils me voient en réunion avec eux. Et c'est là qu'il posait la question, c'est le plan de sauvegarde. On ne paye pas les charges pour le plan de sauvegarde. J'ai demandé d'avoir elle en face de nous pour nous dire, au moins, on doit faire quelque chose. On sait que ce n'est pas l'administratrice qui a volé, mais elle est là pour nous dire, voilà, il y a telle personne qui n'a pas payé. Si elle a les documents, on est là, nous, les propriétaires locataires derrière elle, ou le conseil syndical, pour déposer plainte contre eux.
Oui.
On aimerait bien qu'elle nous donne des réponses pour pouvoir le faire.
Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a un conseil syndical. Vous
non.
N'êtes pas. Non,
non,
malheureusement.
Le conseil syndical, voilà. Quand il y a un administrateur, le conseil syndical, il n'existe pas.
Mais même auparavant, juste avant.
Avant, il y avait le conseil
d'accord.
syndical.
Oui.
Ça dysfonctionnait.
Mais ouais. Ça dysfonctionnait, d'accord. Puis, une question aux membres du groupe de veille, c'est comment êtes-vous arrivé à mobiliser les uns les autres, les institutions autour de cette problématique et d'autres problématiques? Comment faites-vous aussi? Parce que c'est important de pouvoir préciser un peu, parce que ce n'est pas évident, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'actions, de luttes à mener pour les réunir autour d'une même table.
Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de mobilisation, elle est première, c'est-à-dire quand on a commencé à rencontrer, par exemple, les habitants du Mail. Au début, c'était 2-3 personnes. Hein. Il y avait toi, Henriette. Et en fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on pouvait intervenir, nous, groupe de veille, qu'à partir du moment où on sentait que des habitants étaient prêts à se mobiliser. Et il y a eu donc l'organisation de cette manifestation qui a été soutenue par le groupe de veille, qui a fait parler parce que les médias se sont emparés de ça. On a préparé des dossiers avec les photos, etc. Et du coup, derrière, il y a eu la réactivité d'institutions, notamment les deux services qui sont compétents sur la question de l'habitat indigne, c'est-à-dire la ville et la préfecture. Et du coup, on demande à ce que soient mis autour de la table ces différents interlocuteurs pour qu'on aborde la situation à partir de l'expertise des gens qui sont présents, de qu'est-ce qui se passe dans cette copropriété, chose qui était déjà su par certains d'entre eux quand même. Et comment il faut qu'on réagisse par rapport à ça. Et donc derrière, ça engrange le fait que les institutions, dès lors qu'on a été reçus dans un premier temps après la manifestation à la ville de Marseille et dans un deuxième temps à la préfecture. Et après, une fois que c'est pareil pour la crèche de l'œuf, c'est-à-dire que la crèche, elle aurait fermé si on n'avait pas réagi, il faut être honnête.
Oui,
hein.
Bien sûr.
C'est-à-dire que la communication d'aller derrière, conférence de presse, les articles dans les médias, la pétition des parents qui a quand même été signée, et des habitants très rapidement en un nombre d'exemplaires assez important, envoyé à toutes les institutions, a fait que il y a eu au niveau de la préfecture une réunion avec la mise autour de la table de tous les interlocuteurs pour dire qu'est-ce qui se passe là. Et comment chacun doit réagir par rapport à ça. Chaque fois, on a une capacité, nous, dans le groupe de veille, je crois, à réfléchir. Quand il y a un problème, on réfléchit à comment il se décline. C'est-à-dire pas raconter n'importe quoi, mais essayer d'être le plus proche possible de la réalité. Ça, vraiment, on essaye de faire ça. Et donc, quand on vient aux réunions, on a cette expertise-là qui est importante.
D'accord.
Et après, de repérer, c'est pas toujours facile, hein. On s'est posé la question il n'y a pas longtemps de rencontrer des gens du centre-ville qui travaillent sur les copros dégradés aussi. Il faudra qu'on le fasse parce que eux aussi, ils ont acquis, il y a eu Noailles.
Il y a une expérience.
Mais il y a eu d'autres choses. Le centre-ville pour tous, ils ont acquis une expérience sur cette question. Qui interpeller, comment, sur quoi, etc. Parce qu'on se fait vite avoir, en fait, par le fait que les informations qu'on reçoit, on ne sait pas les décortiquer ni les décoder.
Et puis, tu parlais de mobilisation, mais je pense que elle a été médiatisée. Oui. Et médiatiser les problèmes, ça
dérange beaucoup.
Ça dérange. C'est là où on est. Des poils à gratter, quoi. Non, et puis, quand il y a une problématique, je pense par exemple le premier événement qu'il y a eu, donc, qui a mis en route le groupe de veille, ce problème de drogue, là, c'est qu'on s'est rendu compte que bon, c'est arrivé la question des seringues. Les seringues, elles jonchent le sol, mais le sol, il appartient à qui? Il y a toute la question de la domanialité. Qui c'est qu'il faut interpeller? Et je crois que là, maintenant, Maintenant, on sait exactement dans le quartier à qui appartient
la responsabilité.
Je crois que c'est
déjà un point important, tout à fait, il me semble.
Oui. Et puis travailler le discours qu'on a, je crois que c'est un truc important. C'était exemplaire la création du groupe de veille. Les parents réagissent à cette question d'intrusion dans l'école qui venait d'être livrée toute neuve.
Tout à fait.
C'est en quelle année, ça? 2016. Réagissent à l'intrusion d'une consommatrice de drogue dans la cour de l'école, à un moment où les enfants, les parents voient ça. La première réaction, c'est laquelle? Ça serait les réactions violentes contre les consommateurs de drogue, etc., et que ça exacerbe ces rapports. Et alors que la première question qu'il faut traiter, c'est la sécurisation de l'école, quel que soit ceux qui y rentrent. Oui. Et quand les collègues de Arc-en-Ciel et les parents d'élèves ont proposé qu'on se réunisse là-dessus, parce qu'on a un peu cette habitude quand même sur le territoire, hein, quand il y a un problème, on s'appelle, il y a une chaîne téléphonique assez importante et on se réunit pour en parler. Et là, quand on se réunit, on se dit, il faut organiser le discours pendant la conférence de presse. Et moi, il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la conférence de presse et les propos que vous avez eus, mais bon, c'était exemplaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a eu, dehors les drogués, machin, tout ça. C'était, on exige que la ville fasse son boulot, quoi. Et il y avait beaucoup de monde. Ce qui fait que ceux qui arrivent derrière, ils ne peuvent pas détourner, instrumentaliser une action ou une lutte, même si des fois, ils sont tentés de le faire. Et on travaille ça aussi. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Tu vois, la crèche, on dit à la fois la sauvegarde du service public, parce que c'est quand même important qu'un lieu d'accueil petit enfant soit maintenu, mais aussi le refus, on l'a exprimé, que pour des problèmes soi-disant de sécurité, on ferme un équipement. Parce que ce qu'on a dit à l'époque, c'est pourquoi pas fermer alors, clôturer le stade, fermer l'école primaire, fermer toutes les associations qui sont autour, etc.
Fadela, tu voulais intervenir ainsi que Jean-Michel, Fadela?
Non, c'était juste pour...
D'accord.
Je pense, bon, les résultats, est-ce que ça sert à quelque chose tout ce qu'on fait? Je pense que, par exemple, pour cette question des seringues, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement plus de seringues nulle part, quoi. Sur tous les chemins qui mènent à la gare ou
En fait, avec l'ouverture de l'accès à la gare, avec les travaux, etc., on a eu au début, je pense, une petite effervescence des toxicomanes qui faisaient... Et l'école était sur le trajet. Nous, on avait alerté sur ce manque de sécurité à la livraison de l'école. C'est ce qui a fait qu'on... plus ou moins, on savait ce qu'on allait dire et ce qu'on allait faire après l'intrusion, parce que quand on a eu déjà les problèmes de livraison d'école et toutes les batailles qu'on a menées... Là, c'est l'association Arc-en-Ciel, hein, c'était pas encore le groupe de veille. Mais du coup, on savait, nous, que ce problème existait. On s'attendait que ça allait venir. Les problèmes de sécurité, ça allait venir. On savait pas sous quelle forme. Mais trouver un toxicomane en train de se piquer à l'heure de la récréation dans l'école et qu'il y a des enfants dans la cour, c'était un peu... Voilà, c'était... Voilà. Donc, on a décidé de bloquer, de faire un blocus. On a décidé de faire des conférences de presse et on avait eu à l'époque beaucoup de mal, malgré tout le battage qu'on avait fait, à solliciter Madame Casanova, celle qui s'occupait à l'époque
des écoles.
Même là, ça avait été compliqué parce qu'on avait dû aller aussi manifester devant les services de la mairie, etc. Donc, c'est des choses qui ont fait que maintenant, on a un peu prouvé ce dont on était capable. On a prouvé qu'on est quand même réactif, parce que par exemple, quand les problèmes de la crèche se sont amenés à nous. Je crois que dans une semaine, on avait fait 3 réunions, réunis 3 fois les acteurs du territoire, et qu'on s'est emparé très très rapidement. On essaye d'être le plus réactif possible, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force, hein. Parce que là, on arrive à ce que ce soit des pouvoirs ou des financeurs qui vont nous demander des rencontres pour avoir des temps d'échange.
D'accord. Donc, je vous propose de faire une pause musicale à nouveau. Nous allons écouter Renaud dans mon HLM pour nous rajeunir. Nous qui sommes un peu, nous avons pris un peu d'âge, mais néanmoins, il est toujours d'actualité pour nous. Merci, Sidi.
Dans mon HLM, y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM est la monde du huitième. Le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a John Cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le chia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants. C'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM est l'amour du huitième. Le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est instit, y'en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM, qui est l'amour du huitième. Le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse. Celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club. Comme toutes les décolorées, elle a sa mini couvert. Elle allume tout le quartier quand elle sort son coquère. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant. Parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides. Elle l'a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle lit. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM est l'amour du huitième. Le HLM. Au quatrième, dans mon HLM, y'a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, y'a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. C'est pour dire si j'ai raison. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM, l'amour du huitième. Le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loubar et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre ces braves gens, je fais un saut au huitième pour construire un moment avec ma copine germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant. C'est vous dire si on rêve. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du huitième, le HLM. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du huitième, le HLM.
Les échos avec vous et avec nos invités, comment habiter le monde, et plus singulièrement sur le territoire de la Bessorine et de Grand-Saint-Barthélemy, dans un contexte national et mondial de plus en plus incertain et anxiogène qui impacte le niveau local. Donc nous allons reprendre avec vous, chers invités du groupe de veille territoire de la Bessorine. Alors, quels sont les problèmes et les besoins les plus urgents ici et maintenant, selon vous? Quels seraient-ils à énumérer? Est-ce que vous êtes en capacité à pouvoir dire, ou bien cela nécessite une réflexion un peu plus importante? Ces thèmes sont nombreux, ces problèmes.
Mais, non, mais pour moi, c'est des problèmes de cadre de vie, quoi. Il y a quand même énormément de dégradation, d'incivilité. Et pour moi, la question, c'est comment. Il faut être réactif par rapport aux dégradations, et si on n'est pas réactif, elles se renouvellent de suite. Si on est réactif,
cela ne s'installe pas, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Bon, après, il y a d'autres choses qui vont arriver. Je pense, par exemple, le bâtiment J, l'accès du boulevard, à partir du boulevard Charles Mattei, l'accès à la plaine des loisirs. C'est la métropole, elle est en retard. J'espère qu'ils vont nous faire quelque chose de, vu le prix qu'ils y ont mis, qu'ils vont faire quelque chose. Parce que c'est ça aussi, on mérite quand même une des travaux avec une certaine esthétique, quoi. Hein. C'est ras-le-bol de tous ces travaux faits à l'arrache. Et je pense aussi, par exemple, ces travaux autour du bâtiment J avec les parkings qui sont, ça fait des mois et des mois qu'ils sont en train de travailler dessus, et c'est pas encore fait. On a sur tout le boulevard Charles Mattei que des voitures en épi, c'est très dangereux pour les enfants. Il y a une école élémentaire qui est tout près là. Ce problème des parkings aussi, c'est vraiment un problème à travailler. Les parkings sauvages, les voitures ventouses, tout ça, quoi. Hein. Pour moi, c'est surtout des problèmes de cadre de vie, quoi. Hein, que les gens vivent dans des endroits salubres, quoi. Hein, bien.
Comme il y a eu quelques années auparavant, il y avait certaines initiatives, la décoration des balcons, des fleurs et autres, vous vous souvenez. Donc cela permettait, il y avait l'ensemble des habitants qui étaient conviés et qui permettaient, il y avait tout ce concours, toute cette organisation, et peut-être revenir à ce temps qui n'existe plus malheureusement. Alors, Fadela, Amel, vous voulez réfléchir, donner au point aussi.
Moi, j'aimerais bien qu'il rajoute encore un peu de médecins, parce qu'on n'a pas tout ce qui est médical. On n'a rien du tout. On a un médecin qui laisse les patients dehors depuis le Covid. Il les a laissés jusqu'à maintenant. Il n'y a rien du tout. Mais il a une salle. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il les laisse dehors. Et pour ceux qui viennent faire des travaux aussi, j'aimerais bien la métropole, ou je ne sais pas si qui vient faire les travaux. On a une belle école maintenant au Maï. Franchement, il est au top. Mais le problème, c'est leur matériel qui les laisse, et c'est le réseau qui va les utiliser. Il est au milieu de la route. Il y a des barrages avec. Quand ils finissent, au moins ils finissent leur travail, comme il a dit Jean-Michel, ils finissent normal. Nous, maintenant, on a les routes qui sont cassées. On ne sait pas c'est quand qu'ils vont réparer ces routes-là qui nous ont cassées.
Alors, Fadela, quels sont les problèmes? Bon, il sait maintenant.
Le trafic de drogue. La oui. crèche, non, non, la crèche, on est dessus, mais c'est la sécurité et l'insécurité plutôt. Ce problème de trafic hein, qui est au Maï, qui est à Picon, qui est à la Busserine, qui est à Bassès, à Fontvert.
Oui, mais maintenant c'est un peu général.
Vraiment, bon, c'est un parce problème que, général.
Oui,
c'est un problème
surtout à Marseille, quel que soit le secteur aussi, voilà. 9e et autres, c'est un peu partout.
Ouais. C'est un problème de grande précarité, exactement, oui, c'est voilà. ça. Mais le trafic et le problème d'insécurité que ça engendre pour les habitants, c'est lourd.
Alors.
Oui, moi je voudrais dire que si on a cette chance d'avoir le groupe de veille ici, c'est avant tout parce qu'il y a un maillage associatif très dense sur ce territoire, des Flamands jusqu'à Fontvert. C'est historiquement lié à ce territoire, je crois que toutes les enquêtes, les études qui ont été faites reconnaissent ça. Ce nombre d'associations sportives, culturelles, éducatives, sociales, etc. et même les équipements, puisqu'il y a 3 équipements sur ce grand territoire, alors que c'est rare sur... sur d'autres sites. Mais ce que je trouve important à dire aujourd'hui, c'est que on ne pourra continuer à exister que si il y a un respect institutionnel de ce réseau associatif. C'est-à-dire si les subventions continuent à diminuer, si les problèmes de dossiers à constituer, quand on n'est que des bénévoles, tu connais bien le problème,
oui,
Jean-Marc,
oui,
c'est sûr. Que le temps qu'on passe à faire ces dossiers est énorme. La suppression des contrats aidés, qui fait aussi que je pensais hier qu'en fait c'était un monde absurde. On est en train de défendre les contrats aidés au lieu de défendre la possibilité
de
travailler dans une association. Et du coup, si ça disparaît, ça s'atténue, le groupe de veille ne pourra plus exister tout seul. C'est impossible. Son ADN, c'est ça. C'est comment ces différents acteurs associatifs et ses habitants peuvent continuer à travailler. Et moi, c'est un peu l'alerte que je poserai aujourd'hui pour continuer à bosser sereinement.
Alors, faisant comme Martin Luther King, même si j'ai fait un rêve, alors quels seraient vos rêves à vous aussi pour l'amélioration du cadre de vie, en quelque sorte, l'amélioration de la vie? Parce que moi, ce que j'observe, c'est que grâce à tout le travail et toutes les luttes menées par le groupe de veille, c'est que nous observons qu'il y a malgré tout moins de chariots, par exemple. Hein, déjà, pour faire. Donc, il y a tout ce travail-là qui est fait, même si. Parce qu'il faudrait arrêter de se flageller à un moment donné pour reconnaître qu'il y a tout un travail qui est important, que des personnes qui viennent même des quartiers sud, qui viendraient, comment dirais-je, au théâtre du Merlan ou bien à l'espace culturel Busserine, peuvent observer que les quartiers, le Grand Saint-Barthélemy, est beaucoup plus accessible qu'il y a eu un temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait partie. Il faut mettre en exergue ceci. Arrêtons de dire que rien ne se fait.
C'est vrai. Il y a moins de caddies. Il y en a encore un peu, mais il n'y a pratiquement plus de seringues. Il y a moins de décharges, il y a moins de rues barrées, et tout ça, je ne veux pas dire que c'est le groupe de veille, mais je pense qu'on y a contribué, je pense, oui. Mais pour ça, il faut une mobilisation un peu générale, il faut être très réactif, il faut. Ouais.
Par exemple, s'il y avait un message pour qu'il puisse y avoir de plus en plus d'habitants qui puissent se mobiliser, parce que c'est grâce à la mobilisation que les travaux, qu'il y a un groupe de pression en quelque sorte qui se constitue, et il faut être entendu, mais si le plus gros travail a été fait, me semble-t-il, arriver à mobiliser les institutions, que ce soit État, mairie, département, métropole autour d'une table, ainsi que les bailleurs, ce n'était pas du tout, ce n'était pas gagné. Il me semble qu'il faut que, si vous aviez un message adressé aux habitants pour qu'ils puissent vous rejoindre le groupe de veille, pour qu'ils puissent s'impliquer, en sachant que s'il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de groupe de pression, et qu'il n'y a aucune écoute de la part de toutes ces personnes-là, de tous ces politiques et autres. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais vous savez, tu sais, il suffit de descendre de nos appartements. On a une association ou en pied d'immeuble ou pas loin. Donc il suffit aussi de prendre contact avec ces associations qui œuvrent dans ce quartier. Il faut vraiment.
Qui sont en majorité au groupe de veille.
Et qui sont en majorité au groupe de veille. Il faut en profiter, quoi.
Voilà. Donc. Le message que fait. Allez.
Mais, le message, c'est on lâche rien.
Merci, merci, voilà. Parce que c'est le prochain morceau que vous allez écouter, bien sûr. Alors, une dernière question. J'ai été très content de vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir comme d'habitude. C'est que j'aimerais bien savoir, parce qu'à un moment donné, à force, je veux bien que nous sommes dans une nouvelle ère de l'informatique, mais j'aimerais bien qu'il puisse avoir peut-être une mémoire, en quelque sorte, c'est-à-dire des écrits. Pour laisser, parce que peut-être que demain, si le groupe de les personnes qui font fonctionner le groupe de veille sont amenées à dire je suis fatigué maintenant, j'ai trop donné de mon temps, donc il faudrait qu'ils puissent avoir une relève. C'est sur quoi les générations futures vont-elles se baser s'il n'y a pas des écrits, s'il n'y a pas quelque chose qui est mis en place? Est-ce que vous avez réfléchi à quelque chose de cet ordre-là?
Alors,
aussi
on a une grande chance, c'est que au groupe de veille, depuis le début, c'est Anne-Marie qui est un peu l'animatrice et qui est la secrétaire et qui a rédigé tous les comptes rendus de rencontres. Et Anne-Marie, toi, tu les as. Et je pense que ça, c'est une mine. Mm-hmm. Moi, j'en ai quelques-uns. Moi, parfois, il m'arrive de relire des comptes rendus pour me remémorer ou réfléchir quoi, hein, sur des problématiques.
On en revient à la question qu'on a abordée au début. C'est une fois qu'on a tous ces comptes rendus qui sont des archives. Moi, j'ai des cartons chez moi avec mon mari qui me dit derrière, mais pourquoi tu gardes ça? Ça nous emboucane le...
Oui, bien sûr.
Pourquoi tu ne les jettes pas? Ben non, je ne peux pas. Ben, je ne peux pas, effectivement, je ne peux pas. Oui, mais c'est après quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, tu vois, je pensais quand il y a eu l'expo sur le Grand Saint-Barthélemy que vous aviez réalisé, ça, c'est une mémoire visuelle qui est visible par tout le monde, de comment sont créées les assos, l'histoire du territoire, etc. Là, il faudrait presque qu'on fasse la même chose. Ouais. Avec moi, tous les trucs du groupe de veille, les articles, ouais. Tu vois.
Moi, articles.
Voilà. Moi, je me dis que là, on va préparer ça pour l'inauguration de la crèche de l'œuf, c'est-à-dire tous les articles, machin et tout.
Avec ma méga, pourquoi pas, ouais, si on peut avoir un peu d'aide, mais faire une grande.
C'est ça, un peu comme une fresque depuis l'existence, de ce qu'on a abordé, comment on l'a fait, tu vois, parce que c'est. C'est. Réécrire, moi, je sais que chaque fois, je me dis, il faut que tu écrives. Quand tu écris, c'est mettre propre, c'est
quelque chose.
Je ne le fais pas, c'est du temps. Et le temps, je passe à autre chose. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour ça. Mais du coup, il faudrait qu'on ait des financements pour ça, éventuellement. Voilà, donc c'est comment on met en forme tout ce qu'on a, en fait, comme archive.
Mais il y a eu quelqu'un qui a préparé, qui a été très impliqué dans la rue du 16 novembre, qui préparait une sociologue. Le docteur sociologue, là, qui était bien impliqué, qui était au centre social Agora. Vous voyez de qui je veux parler,
Kevin.
Et donc, il est donc quelqu'un de cet ordre-là qui peut être impliqué, qui provient d'ici, qui fait un travail de recherche de sociologie, ou bien préparer un mémoire ou un DEA, voire qui peut se pencher là-dessus sur l'histoire un peu du Grand Saint-Barthélemy et peut-être pencher et écrire quelque chose comme ça, ça permettrait d'avoir... Ouais. Et lancer une idée comme cela à la faculté et autres, ça nous permettrait de pouvoir moins de réfléchir sur les moyens financiers pour y avoir quelqu'un qui puisse être là presque au quotidien et rédiger quelque chose pour avoir une mémoire, reconstituer cette mémoire qui me semble être fondamentale. Alors, je vous remercie. Je sais qu'il y a quelque chose cet après-midi. Alors, quelle est l'actualité du groupe de veille, justement? Alors, cet après-midi, vous êtes en lien avec la visite d'une ministre. C'est cela.
Alors, Madame la ministre de la Ville, qui a un mois, est venue sur le territoire, accompagnée par le sous-préfet de région, si je me rappelle bien, la PEDEC, les différents services. Et l'idée, c'est de... Alors nous, on a bien senti que le truc, c'est de se dire, je viens pour la première fois sur un quartier de Marseille, donc c'est bien que je vienne sur un lieu où il y a déjà des interlocuteurs organisée, parce qu'elle avait demandé à ce que ce ne soit pas une réunion publique, mais que ce soit bien une réunion avec des acteurs qui parlent de dossiers propres au territoire ici. Donc, encore une fois, tu verras de quoi je parle, Jean-Marc, je pense qu'on sert un peu de territoire d'expérimentation, c'est-à-dire que ça va être communiqué, tout ça. Déjà, aujourd'hui, il y a une émission qui est prévue avec la PEDEC sur BFM TV ce soir. Je pense qu'il va y avoir de la communication autour de ça. Je pense aussi que les institutions vont peut-être... pointer plus qui est de l'ordre de leur propre action que de celle des acteurs de terrain. Donc à nous de nous emparer de ça. C'est-à-dire que si les dossiers dont elle parle là dont elle va parler sont traités, c'est bien parce qu'il y a eu en amont une action avec les habitants et les acteurs associatifs du territoire, et ça, il faut absolument qu'on le mette en avant, parce qu'autrement, on l'a vu sur la plaine des loisirs, hein. Les institutions peuvent très bien se passer de nous au moment où ils vont tirer la couverture à eux et communiquer sur quelque chose qui a été créé et qui, pour eux, n'est que grâce à eux. Voilà. Donc, voilà, la ministre vient cet après-midi. Il y a les réunions dont on parle avec... on a parlé avec Amel tout à l'heure, avec les habitants du Mail, qui ont régularité maintenant, hein, qui se tiennent régulièrement, où vont être abordés les problèmes liés à la copro. Et ça, c'est animé par Mme Epaillard, la PEDEC, aujourd'hui, et la ville, normalement. Voilà, donc on va être sur une série de rencontres, en fait. Je trouve que ça c'est mon avis perso, le timing de la rencontre de cet après-midi est déjà pas le même que celle d'il y a un mois avec la ministre, et donc du coup on est sur une course un peu à des multiplicités de rendez-vous sur le... on aurait dû lui dire de passer ici d'ailleurs, hein.
Oui, on lui aurait dû passer
le rendez-vous
micro,
sur le territoire qui à mon avis vont avoir du mal à être honorés comme véritable rencontre, mais bon, ouais. C'est leur problème. Voilà, les actualités, c'est ça. C'est l'inauguration de la crèche où tout le monde veut venir au mois de juin.
Oui.
Voilà.
Et la ministre suit particulièrement le dossier, ouais, de la crèche, ouais, et mm-hmm, a promis d'être là pour son inauguration.
Mm-hmm. Ce qui me semble être important pour le groupe de veille, hein, c'est qu'il puisse y avoir cette mobilisation, mais aussi porteur de message qui est commun et collectif. Parce que généralement, cela peut être extrêmement dispersé, la parole, certains tirant la couverture à soi, et que cette parole, le ministre n'entend pas exactement quel est le discours. Donc c'est ce qui me semble être important, et que je retiens aussi des interventions du groupe de veille. Donc je vous dis bien merci, et peut-être à bientôt, hein, et au plaisir de vous retrouver incessamment sous peu pour les différents combats. Alors il y a Anne-Marie qui a commandé un morceau, on ne lâche rien, alors est-ce ceci d'accord, pas vrai? Allez, merci.
Ça va nous rappeler. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 On lâche rien.
Partie des échos du Grand Saint-Barthélemy. Donc, après le départ de nos amis du groupe de veille, nous vous proposons de découvrir une initiative menée par le comité Maméga en partenariat avec l'association Macaya, les centres sociaux Flamengris et Saint-Barthélemy, anciennement MFA. Cette action centrée sur le Rap Stories a pour objectif d'aider les enfants et les adolescents à gagner en confiance en eux en développant un intérêt pour la lecture, l'écriture et l'addiction. Donc nous remercions la NCT pour son soutien à ce projet. Donc nous allons écouter le travail des enfants concernant le rap. Merci Sidi.
Tu sais, la vie n'est pas facile. Même si tu as eu une enfance difficile,
je nous apporte une offre. Maintenant ton ventre, c'est le plus beau cadeau que tu nous as offert. Maman, il y a eu des hauts et des bas. On sait déjà tout ce que tu as traversé.
Même si pour toi ce n'est pas très normal, tu as fait des sacrifices pour nous voir.
Maman, j'ai envie de te remercier, même si ça ne sera jamais assez, pour tout le bien que tu nous as accordé. Maman, j'aimerais te dire à quel point je t'aime. Maman, tu es le seul sang de ma veine. Le seul sang de ma veine. Les autres n'ont pas d'importance pour moi. J'aimerais te prendre une fois dans mes bras.
Trop dangereux, c'est trois héroïnes qui se vengent. Je sais que là tu rêves beau que des dingueries. C'est de manière en face que des conneries. Y'a la police, ouais, ils sont cadeaux aux portes. Nos vies prennent la vitesse du collège au lycée. Les héroïnes se sont séparées malgré les dingueries. On s'est toujours pardonné.
Toujours concentré malgré les problèmes. Toujours en ensemble, concentré dans ce thème.
Thank you.
14. Trop dangereux, c'est trois héroïnes qui se vengent. J'ai fait que là tu rêves pour que des dingueries. C'est de manière en face que des conneries. Y'a la police, oh, ils toquent à nos portes. Nos vies prennent la vitesse du collège au lycée. Les héroïnes se sont séparées malgré les dingueries. On s'est toujours pardonné.
Toujours concentré malgré les problèmes. Toujours ensemble, concentré dans ses.
Les urines se sont séparées malgré les dingueries. On s'est toujours pardonné.
Toujours concentré malgré les problèmes. Toujours ensemble, concentré dans ses.
Les urines se sont séparées malgré les dingueries. On s'est toujours pardonné.
Toujours concentré malgré les problèmes. Toujours ensemble, concentré dans ses.
Les urines se sont séparées malgré les dingueries. On s'est toujours pardonné.
Une Audi RS3, être célèbre. Tous les soirs au studio, j'envoie tout au radio. Freestyle sur YouTube, percer, faire des tubes.
Percer, faire des tubes. Percer, faire des tubes. Freestyle sur YouTube. Freestyle sur YouTube. Percer, faire des tubes. Percer, faire des tubes. Freestyle sur YouTube. Freestyle sur YouTube.
Ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait.
J'ai 25 ans, j'ai percé. Toute la France, elle me connaît. De Paris jusqu'à Marseille, tous les gens me reconnaissent. Tout le monde écoute mes chansons. Et le son, c'est ma passion. Freestyle sur YouTube. Percer, faire des tubes.
Percer, faire des tubes. Percer, faire des tubes. Freestyle sur YouTube. Freestyle sur YouTube. Percer, faire des tubes. Percer, faire des tubes. Freestyle sur YouTube. Freestyle sur YouTube.
Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je suis dans ma villa. Je sors tous les jours à Madrid et à Paname. Je fais des photos avec des abonnés. Je sors dans la rue, tout le monde me reconnaît.
Percer, faire des tubes. Percer, faire des tubes. Freestyle sur YouTube. Freestyle sur YouTube. Percer, faire des tubes. Percer, faire des tubes. Freestyle sur YouTube. Freestyle sur YouTube.
C'est décidé, je vais devenir pro.
Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable.
Eiffel, il y a un incendie. Les pompiers peuvent la sauver, les pompiers réussissent. Mais la jeune fille de 18 ans a perdu une jambe. Elle doit la remplacer, elle demande à ses parents. Les parents la mettent dehors car ils n'ont pas d'argent. Le jour de son anniversaire, une femme vient la trouver. Elle l'amène à Carrefour pour qu'elle puisse travailler. Elle annonça à la femme qu'elle a assez d'argent pour acheter un nouvel appartement. Mais avant, elle retourne chez ses parents. Les parents sont choqués car elle a deux jambes. Elle s'appelle Sarah, elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah, elle s'appelle Sarah. je vais vous raconter les aventures de Sarah.
Purchase your tracks.
Elle se marie avec Jasmine Wilson. 3 ans plus tard, ils ont eu 2 enfants. Le premier avait 10 ans et le deuxième avait 6 ans. Ta mère vient tous les samedis pour s'excuser. Mais sa fille était tellement énervée. Un jour, Sarah finit par se décider à inviter sa maman à manger. Elle s'appelle Sarah, elle s'appelle Sarah.
Se passe à la busserie. Sarah et Abdou en 19 ans. Ils sont partis à la campagne. En panne d'essence depuis 3 jours. Sans rien à boire ni à manger. Tout à coup, au bout de 5 jours, ils fabriquent un lit pour dormir. Ils finissent par trouver Juifi et appellent la dépanneuse.
La dépanneuse arrive, les dépose à la busserie. Ils se croisent tout le temps, puis ils s'avouent leurs sentiments. 1 an plus tard, ils se marient. 10 ans plus tard, ils ont 5 filles. 1 an plus tard, ils se marient. 10 ans plus tard, ils ont 5 filles.
Purchase your tracks today.
Au final, Sarah et Abdou déménagent de la busserie. Ils emménagent en Guadeloupe. Et là-bas, ils ont eu 3 fils. Au final, Sarah et Abdou déménagent de la busserie. Ils emménagent en Guadeloupe. Et là-bas, ils ont eu 3 fils. Et là-bas, ils ont eu 3 fils. Et là-bas, ils ont eu 3 fils. Et là-bas, ils ont eu 3 fils.
Je suis Hawaï Zoa, rappeur et intervenant artistique sur le projet Stories. Le projet Stories a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la lecture et à l'écriture à travers l'exercice du storytelling. Le storytelling étant l'art de raconter des histoires, c'est un exercice très courant dans le rap auquel les jeunes se sont prêtés et continuent à se prêter, et nous sommes très heureux de vous faire découvrir leur travail en cours.
Voilà, Issa du comité Maméga. D'abord, merci à Radio Galère 88.4 de nous accueillir sur leurs ondes. Moi, je tiens à féliciter les gamins de la Busserine et du Centre Social Flamand Iris qui ont participé et qui se sont donnés à fond pour aboutir à ce résultat-là. Donc, nous aurons un meilleur rendu d'ici juin, je pense. On aura encore plus bossé là-dessus. Moi, je tiens à les féliciter de ce qu'ils ont fait, parce qu'il y avait des gamins qui étaient ultra, ultra timides et qui ont réussi à se lâcher à la fin, qui ont demandé à ce qu'on diffuse leurs morceaux. Félicitations à vous, les petits. Et merci à Gary et Makaya, au comité Maméga, Jean-Marc, de cette initiative. Le hip-hop et le rap est ancré, fait partie de notre culture urbaine. Nous, dans les quartiers nord, on aime le foot, le rap et la boxe. Donc ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de nos vies. Donc encore merci au comité Maméga, merci à ces gamins de se donner. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point-là. Donc tous les petits, tous les gamins, moyens et grands, tout le monde, tous ceux qui veulent, qui sont intéressés à la création de d'œuvres musicales dans le monde du rap, venez. Rendez-vous tous les mercredis après-midi de 14h à 17h au comité Maméga, 8 rue de la Busserine, en compagnie de Makaya, Gary. Et on sera heureux de vous accueillir. Nous aurons un stage de perfectionnement qui débutera pour la première semaine des vacances de Pâques. Donc le matin, nous serons au Centre Social Flamand Iris. Et l'après-midi, on sera au comité Maméga toute la première semaine des vacances de Pâques. Donc vous serez les bienvenus aussi. Et en avant la musique.
Alors, concernant les centres aérés, ce que l'on peut dire, les centres sociaux, par exemple, ils continuent leurs activités habituelles. Donc, nous allons passer au lieu de culture du territoire, pour commencer par le GEF, Théâtre du Merlan, scène nationale, avenue Rémy, dans le 14e. Pour toute information, réservation, vous composez 04 91 11 19 20. Alors, du jeudi 27, c'est-à-dire d'aujourd'hui au vendredi 28 février 2025, à partir de 20h, il y a théâtre, musique, cinéma, Fajar ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète, Adama Diop. Pour sa première mise en scène, Adama Diop explore l'exil, nourri de ses racines sénégalaises et françaises, et propose avec Fajar une vaste fresque où théâtre, cinéma, musique se rencontrent. Une épopée qui donne de l'ampleur au désir d'ailleurs, rappelant que l'aube incarne toujours la promesse d'un renouveau, sachant que Adama Diop refuse l'expression, le terme de migrant. Il a dit, est-ce qu'il pose une question qui est très juste, est-ce qu'il y a un Français qui va ailleurs, on parle de migrants ou on parle d'expatriés. Donc ce sont des questions qui sont extrêmement pertinentes à mon sens. Toujours au ZEF, le samedi 1er mars 2025 à 11h, c'est du théâtre, musique, toujours avec Adama Diop, Fajar, atelier musique, guitare électrique, violon, violoncelle, mais aussi nogoni, tama, flûte mandingue, eupel, toujours Diop qui sera à la manœuvre. Alors, nous poursuivons le jeudi 6.
Toujours jeudi 6 et vendredi 7, toujours au ZEF, scène nationale de Marseille, ex-théâtre du Merlan. Il y aura une scène de théâtre en fait en créole qui s'appelle Tout Moun. Et en fait, c'est pas tout à fait une scène de théâtre, c'est plutôt
de la danse, hein.
De la danse exactement et poétique. C'est autour du poète romancier martiniquais Edouard Glissant. Donc Tout Moun, qui signifie en créole tout le monde, toute personne. Ou tout un chacun. Ce spectacle sera composé de danseurs, un saxophoniste qui sera au milieu, qui jouera des morceaux, et toute une création artistique autour de ça. Ça se déroulera le jeudi 6 et vendredi 7 mars à partir de 20h. Ça dure 1h10 et ça s'adresse à tout public dès 8 ans. Donc n'hésitez pas à réserver au 04 91 11 19 20 pour tout renseignement.
Nous allons passer à l'espace culturel Bessorine, situé rue Maboubitir dans le 14e, téléphone 04 13 94 85 00. Le samedi 1er mars à 20h, il y a concert d'accro et vive folk marseillais. Et en première partie, il y a chouchou, chicha, c'est de la cumbia électronique. Le mardi 4 mars à 14h, cinéma, c'est cinéma spécial femme, un documentaire d'Ali Benrezkala et à 20h, Kamel Comedy Club avec des artistes féminines. Le jeudi 6 mars, table ronde des conférences, ça reste à confirmer. Et le samedi 8 mars à 20h, La Lyonne, théâtre compagnie de la Naïve, pièce autour de la vie de Gisèle Halimi, que l'on ne présente plus. Donc, en dernier lieu, ce que nous tenons à vous dire, c'est que les Échos du Grand Saint-Barthélemy sont rendus possibles grâce au concours de la politique de la ville, État, métropole et département. Je laisse la parole à Issa pour présenter le dernier morceau, en espérant vous retrouver pour ma part le mois prochain et retrouver Sidi, bien sûr, avec Radio Galère en direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy. Et merci à Daniel pour l'accompagnement de Sidi dans nos locaux.
Le dernier morceau s'appelle Rainaray. Non, en fait, c'est le groupe Rainaray. Le morceau s'appelle Yazina. C'est un petit clin d'œil pour tous mes compatriotes et frères musulmans. Et tout horizon, bien sûr. C'est pour célébrer l'arrivée du jeûne, en fait. Le jeûne qui commencera, le mois du Ramadan qui commencera, qui nous l'espérons, Inch'Allah, samedi 1er. Donc, Rainaray pour dédicacer à tous les musulmans de France et du monde qui vont célébrer ce mois sacré. Voilà, je vous dédicace ce morceau. Yazina.
Merci Sidi, à bientôt. Allez, bye bye.
Et merci Sidi, à bientôt. Bye bye. Oh,
جات اليوم القبسة البراد يا سينا ربي للواد ربي للواد وجيبي نعنع جديد يا سينا ماليش عليك ماليش عليك لا خرضوني عيني يا سينا قولي لي واه ولا لا لا ولا قطعيني الياس
يا سينا مانيش عليك مانيش عليك وراه